Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots.
Mythes et complots.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Mesdames, messieurs, bienvenue à Mythes et complots. Christian, salut.
Salut, Jeff.
On va poursuivre cette semaine avec la thématique des créatures étranges et surnaturelles.
Oui, bien sûr.
On parlait la semaine passée des sorcières, notamment les sorcières de Salem. Et on va parler, entre autres, aujourd'hui des vampires et des zombies.
Exact. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, il y a toutes sortes de créatures fantastiques qui nous habitent. Et c'est vrai depuis l'Antiquité. Hein, quand on regarde les grandes légendes de l'Antiquité, qu'on pense au Minotaure, la Gorgone et tout le reste,
ouais.
Ça fait partie d'une espèce d'archétype humain d'imaginer des créatures fabuleuses, imaginer des univers peuplés de créatures fabuleuses. Les historiens, les archéologues, les anthropologues ont un peu des idées pourquoi souvent ces idées-là vont naître et comment elles vont trouver un lien avec la réalité.
D'ailleurs, à ta conférence hier soir,
oui.
Tu parlais de différentes formes de Bigfoot. Donc, tu disais au Népal, le Yeti.
Voilà.
Sur la côte ouest américaine, le Bigfoot. Sur la côte ouest canadienne,
le Sasquatch.
Le Sasquatch.
Alors, en Russie, on l'appelle l'almasti, en Chine, le wildman. Et c'est ce qui est intéressant dans ces créatures, ces hominidés inconnus, c'est qu'ils font partie d'un folklore qui existe depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de l'homme blanc. C'est-à-dire que souvent, des groupes sceptiques
les
ou les sceptiques, par exemple, vont souvent dire « Ouais, mais c'est un peu des inventions de l'homme blanc, puis tout ça. » Par exemple, le Sasquatch ou le Bigfoot aux États-Unis. L'histoire du Bigfoot, dans la culture blanche, on s'entend bien, dans la culture blanche, elle apparaît dans les années 50. C'est-à-dire que on va trouver près d'un chantier de construction en Californie, en Californie, dans l'État de Washington, de mémoire, on va trouver des empreintes géantes près d'un chantier où il y a un abattage. Et la longueur des pieds fait comme 18-20 centimètres. Là, tu sais, bon, c'est énorme. Et là, on se dit, ça doit être... Et c'est là qu'un journaliste dit, si la créature a réellement des pieds aussi grands, ça doit être vraiment... Il y a vraiment des big feet. Donc, on crée ainsi Bigfoot, hein, qui devient une créature légendaire. Et là, souvent, des gens ont tendance à ramener ça, cette histoire-là, en disant, oui, mais c'est apparu dans les années 50, c'est une invention de l'homme blanc. Mais on fait abstraction qu'en fait, ces légendes existe depuis toujours dans ces cultures-là. Au Népal, par exemple, l'existence du Yeti est évoquée dans des textes anciens. On parle de ces créatures-là exactement comme le Sasquatch sur la côte ouest canadienne. Le mot Sasquatch est un mot valise un peu emprunté à plusieurs tribus autochtones et particulièrement des Amérindiens Salish qui veut dire le vieil homme de la forêt. Donc, lorsque les premiers hommes blancs sont arrivés sur la côte ouest au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, ils ont été confrontés à cette culture, ces légendes d'hominidés inconnus qui vivaient dans les forêts. Et c'est vrai pour l'Amérique du Nord, c'est vrai pour le Népal, c'est vrai pour la Chine, la Russie. Donc, ces cultures-là entretiennent le mythe de créatures mystérieuses, hominidés qui vivraient dans les forêts.
Et donc, ça a beau être anecdotique, mais quand c'est partout et quand ça revient, quand ça reste comme ça, et c'est imprégné dans l'histoire... Il y a des faits intéressants.
Ouais.
Il faut s'y intéresser.
Ouais.
Et les vampires, c'est la même chose.
Oui, bien sûr, les vampires, là, on peut retrouver... C'est amusant parce que le vampire, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, il a acquis une espèce d'image un peu romanesque. Hein? Le vampire, on l'a vu entrevu avec un vampire et toute la saga des films Twilight, là où on mélange un peu fantastique et amour et histoire romantique.
Amour impossible.
Amour impossible, bien sûr. Donc, on a une vision du vampire qui est devenue très romantique, très romanesque, alors qu'en réalité, les histoires de vampires, elles existent depuis l'Antiquité. Évidemment, on ne les appelait pas les vampires. Le terme vampire apparaît beaucoup plus tard, à la Renaissance. Mais on avait des créatures, bien sûr, qui sortaient la nuit pour se nourrir du sang des vivants. Parce que le sang, bien sûr, c'est un liquide porteur de vie. Hein, c'est la source de la vie. Donc, ces créatures sortaient la nuit. Et dans les cultures, on imaginait aussi tout ce qui appartient à la nuit fait partie d'un monde un peu, non seulement occulte, mais un peu, entre guillemets, diabolique, sans aucune connotation religieuse. Mais c'est vrai que l'obscurité, le noir, c'est là que les créatures maléfiques vont sortir. Et on va souvent associer à ces créatures, par exemple, la chauve-souris, dans la culture occidentale, est devenue un symbole du diable. Et c'est pourquoi un peu les vampires se transforment en chauve-souris. Donc, tout ce qui apparaît la nuit, donc les créatures des ténèbres, deviennent forcément des créatures maléfiques. Donc, et c'est vrai dans l'Antiquité, c'est vrai presque dans la préhistoire, la peur de ne pas voir. Parce que il faut pas se le cacher, les hommes, les êtres humains, sont des créatures diurnes et la nuit, on dort. Et la nuit, bien sûr, nos sens sont moins bien aiguisés que le jour, donc on voit moins bien la nuit. Donc, il y a toujours une peur de l'inconnu, et dans cette peur de l'inconnu, on peut imaginer toutes sortes de choses. Je citerai mon grand-père, Ovid, philosophe à ses heures, qui disait toujours « Dans le noir, tu te fais des accroire ». Et c'est un peu vrai.
Ben,
donc,
tout à fait. Je te racontais il y a quelques semaines qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. Lorsque je me lève pour le petit pipi, 3h du matin à peu près, ben, ça m'arrive régulièrement de laisser la lumière de la salle de bain ouverte. Comme ça, ça projette une lueur sur le reste de l'appartement.
Et c'est rassurant.
C'est rassurant.
Voilà.
C'est anxiolytique. mais il n'y a rien de rationnel là-dedans.
Absolument.
À la limite, c'est un peu niaiseux.
Voilà. Mais c'est un peu aussi un instinct de conservation qui s'est développé chez les êtres humains. C'est-à-dire qu'on sait que, comme la nuit, les forêts peuvent représenter les forêts ou les endroits qu'on voit moins bien, évidemment, il peut s'y cacher des animaux dangereux. Et bien sûr, par un réflexe, par l'instinct de conservation, on a appris les hommes à éviter les endroits où on ne voit pas bien parce qu'on devient vulnérable. Et c'est bien sûr dans ces mondes des ténèbres qu'appartiennent nos créatures vampires, loups-garous, zombies et tout le reste.
Et une nouvelle qui a fait le tour du monde au Malawi, au mois d'octobre, depuis le mois d'octobre, des problèmes et entre guillemets de vampires.
Voilà, parce qu'on a l'impression que tout ça semble sorti tout droit du Moyen-Âge ou de la Renaissance, des vieilles superstitions anciennes que le cinéma continue d'entretenir. Et pourtant, dans plusieurs régions du monde, ces légendes, ces superstitions demeurent encore très présentes. Et on a par exemple cette histoire au Malawi qui est tout à fait désastreuse. En fait, elle a attiré l'attention du monde entier. Oui. Tout ça a commencé le 16 septembre dernier par une espèce de rumeur qui s'est répandue dans des petits districts où là on disait il y a des gens, des vampires qui viennent, faut s'entendre, hein, c'est un petit pays de l'Afrique australe,
ouais.
Et les populations demeurent excessivement proches des superstitions. Alors soudainement, une sorte de panique locale, on dit qu'il y a des vampires qui sont dans les environs, ces vampires-là sont là pour prendre le sang des gens, pour le boire, ou bien encore pour l'utiliser dans le cadre de rituels de magie noire. Alors, soudainement, dans cette panique, il va se produire un incident malheureux. Deux personnes seront identifiées comme étant le vampire ou les vampires, dont l'un d'entre eux n'est rien d'autre qu'un pauvre vagabond, un sans-abri, qui sera identifié comme étant un vampire. Et ces gens-là seront littéralement lynchés sur la place publique.
Ouais, et donc en un mois, on dit qu'il y a à peu près une dizaine de personnes là, qui ont
voilà,
été lynchées.
Voilà, donc en un mois. Et là, ce qui va se faire au Malawi, c'est que dans ces petites régions, en fait, ces petits comtés très ruraux, il va se développer des sortes de milices locales. Ces gens-là vont arpenter la nuit les rues avec des gourdins dans l'espoir de dénicher l'un de ces vampires, parce qu'on craint ces vampires. Et bien sûr, si vous êtes aperçu dans ces régions-là, vous êtes aperçu la nuit, vous pouvez vite être identifié comme un de ces vampires. Et comme tu l'as mentionné, donc depuis un mois et demi maintenant, on en est rendu à 9 victimes clairement identifiées. L'affaire a fait tellement de bruit que même le président du Malawi, Peter Maturaka, a dû se prononcer devant l'ONU. Ouais. Parce qu'il faut le savoir, les organisations humanitaires ont demandé le retrait des gens qui se trouvent dans ces régions-là par peur qu'elles soient identifiées comme étant des vampires. Parce que, tu l'as bien compris, Jeff, des gens qui se promènent avec un sarrau et un stéthoscope autour du cou deviennent vite un vampire. Hein. S'ils sont là puis ont un stéthoscope, ils se promènent avec des ambulances ou des
voilà,
trucs
et au Malawi, il y a des gens qui croient que, par exemple, au Malawi ou au Mozambique, étant donné l'aide humanitaire, on souhaite recueillir le sang des gens. Et voilà. Là, on s'imagine toutes sortes d'affaires superstitieuses par rapport
voilà.
à ça.
Voilà. Donc, ces gens-là, sa tête humanitaire vient, fait des prélèvements sanguins. Et là, ouais. on s'imagine qu'au lieu que ces prélèvements sanguins servent à une sorte de décantage des maladies locales pour pouvoir permettre cette aide humanitaire, cette aide médicale, on s'imagine que ce sang sera utilisé éventuellement dans des rituels de magie noire. Et là, bien sûr, c'est une vindicte populaire. On cherche ces gens, on va les lyncher sur la place publique. Donc, les gens qui, les organisations humanitaires, très souvent tentaculaires à l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé également, ces gens-là ont eu ordre de se retirer du Malawi en attendant que les choses se calment. Donc, le président du Malawi s'est prononcé en disant « c'est de la folie, c'est vrai ». Les gens qui sont responsables de ces paniques, c'est les gens également qui pourchassent ces vampires et qui se sont livrés à ces actes de lynchage public, seront également identifiés et punis. Mais n'en demeure pas moins que cette histoire a fait le tour de la planète et nous montre bien que dans certaines régions du monde, ces légendes de vampires, de buveurs de sang, continuent d'alimenter les superstitions locales. Et c'est le cas avec le Malawi.
Est-ce que vous croyez, mesdames, messieurs, aux monstres ou aux créatures surnaturelles comme les vampires? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous pouvez nous écrire aussi à mythe au pluriel à cogecomedia.com. On est de retour, Christian, dans à peu près 2 minutes.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythe et complot avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Croyez-vous aux monstres surnaturels tels que les vampires, par exemple? On va vous parler dans les prochaines minutes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui attend. Mais d'abord, on va revenir sur les vampires, Christian, aux origines des vampires à l'Antiquité.
Ben, comme je te l'ai mentionné en début de présentation, c'est sûr que cette histoire de vampires, même si elle est devenue très romanesque avec la Renaissance, tout ça, et surtout durant l'époque victorienne, les premiers écrits qui vont être très populaires apparaissent aux alentours de l'ère victorienne, même si le vampire est déjà une créature qui commence à prendre forme vers le 16e siècle à peu près. Mais quand on regarde dans l'Antiquité, on a ces histoires de créatures qui sortent la nuit pour prendre le sang des vivants, pour se nourrir du sang des vivants, qui est porteur de vie. Et c'est assez amusant parce que les vampires n'ont pas exactement la même forme qu'on les imagine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, quand on regarde l'évolution du vampire, au tout début, il apparaît comme étant une espèce de fantôme. Donc, le vampire, qui n'est pas encore officiellement étiqueté comme un vampire, donc on parle ici soit de l'Antiquité ou le tout début du Moyen-Âge, ces créatures qui sortent la nuit pour boire le sang des vivants ont davantage l'aspect d'un fantôme. Oui. Et peu à peu, elles vont commencer à se transformer. Elles vont apparaître avec un corps. Ce sont donc des créatures qui ont un corps. Elles sont souvent vêtues de lambeaux. Elles sont en fait plus proches des zombies. Elles apparaissent la nuit. Sortent la nuit pour prendre le sang des vivants. Et peu à peu, elles vont acquérir cette image romanesque vers l'époque victorienne à peu près, où là, elles vont devenir presque des nobles, le comte, le prince et compagnie, qui deviennent des vampires à l'image, bien sûr, du comte Dracula.
Absolument, bien habillé, avec veston, habillé, beau manteau, etc.
Roman de Bram Stoker qui apparaît en 1897. Donc, on a cette histoire du vampire, mais cette histoire, elle est quand même beaucoup plus qu'une notion de l'imagination. On regarde, par exemple, des grandes épidémies durant le Moyen Âge et au tout début de la Renaissance, par exemple, des grandes épidémies de peste, le choléra et autres. Comme ces gens-là apparaissaient, parce qu'on va le voir, il y a des maladies qui vont être associées éventuellement aux vampires. Et lorsqu'il y avait des situations de peste ou de choléra, il est arrivé à quelques reprises que des gens que l'on croyait morts ont été mis, par exemple, en terre et on s'est aperçu qu'ils bougeaient encore. Et là, bien, au lieu de l'imaginer que cette personne-là, en fait, ne faisait que ressortir d'un état de catatonie, ouais. On imaginait que cette personne-là était finalement revenue à la vie. Alors, au cours des dernières 50 dernières années, plusieurs archéologues qui fouillaient des nécropoles datant du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance ont été surpris, d'une certaine manière, de découvrir, par exemple, dans des cimetières, plusieurs corps qui avaient été inhumés avec une pierre dans la bouche, parce qu'évidemment, si le vampire sort d'entre de ressort de sa tombe, s'il a une pierre dans la bouche, il pourra pas venir nous mordre. Donc, on trouvait des cadavres, en fait des squelettes, avec des pierres dans la bouche. Certains avaient été littéralement cloués dans leur cercueil pour être bien certains qu'ils ne reviennent pas d'entre les morts. Et certains avaient eu également le cœur percé avec un pieu. Donc, tous des éléments, des archétypes qu'on trouve bien sûr dans l'univers du vampire, mais qu'on a retrouvés de manière très physique dans des nécropoles lors de travaux archéologiques qui montrent bien que dans cette période de la Renaissance, cette période du Moyen-Âge, ces légendes de vampires étaient bien présentes au-delà des superstitions et lors de rituels d'inhumation, on s'assurait que ces gens que l'on suspectait d'être des vampires ne reviennent pas d'entre les morts.
Et tu sais, Christian, des films, puis la littérature sur les vampires, c'est pas ça qui manque?
Non, absolument.
Mais le film de vampire est le personnage qui m'a fait le plus peur. À mon avis, un des plus efficaces, parce qu'on a là-dedans des techniques d'expressionnisme allemand, avec on utilise des ombres pour faire peur aux spectateurs. Le film du début du 20e siècle, Nosferatu.
Oui, Nosferatu.
D'un réalisateur allemand, donc c'est un film allemand.
C'est Herzog qui avait produit... Herzog qui avait produit Nosferatu. Mais tu vois, c'est assez amusant parce que cette histoire du vampire, notamment dans Nosferatu, il faut savoir que cette image du vampire, le comte, le prince vampire un peu romanesque, quoique dans le cas de Nosferatu, il n'est pas très charmant, notre Nosferatu.
Non, ça marche, là. Il est épeurant.
On est loin de Tom Cruise ou de Brad Pitt dans l'entrevue avec un vampire. Mais enfin, donc, ce qui est amusant dans ce Nosferatu, c'est qu'il est une adaptation, en fait, du roman de Bram Stoker, Dracula,
oui,
qui paraît en 1897. Et c'est assez amusant parce que Dracula de Bram Stoker est lui-même, en fait, une inspiration un peu plus ancienne. Hein? C'est-à-dire que le vampire, et là, évidemment, on pourrait en parler pendant des semaines, mais le vampire apparaît déjà là, dans cette partie de la Renaissance, il apparaît. Il va prendre réellement forme au tout début du 19e siècle, notamment par une pièce de théâtre, en fait, un écrit, un type qui s'appelle John Polidori. John Polidori, pour bien situer les gens, il faut savoir, et là, écoute, on rentre un peu dans le scabreux. Au tout début du 19e siècle, il y a en Angleterre une communauté de gens qui un peu s'imposent, ou s'opposent plutôt, à l'Église, et des gens qui ont un peu des mœurs débridées pour l'époque.
Un genre de nouvelle vague.
Une nouvelle vague. Et parmi eux, il y a des gens très intellectuels, une élite, et parmi cette élite, on retrouve par exemple Lord Byron. Lord Byron, qui est un peu étrange, on le dit bisexuel, il entretient des liens un peu sulfureux avec ce John Polidori, et ces gens-là vont se réunir éventuellement dans une résidence à Dadiodati, en Suisse. Et parmi eux vont se trouver également Mary Shelley et Percy Shelley, l'écrivain et poète Percy Shelley, oui, son épouse Mary Shelley. Et lors de cette soirée à Dadiodati, on est en 1817 de mémoire, Lord Byron va lancer comme idée, dit « Ce soir, personne ne dort, on va simplement écrire une histoire d'horreur épouvantable. Chacun d'entre nous va s'isoler, écrire une histoire d'horreur. »
On laisse les chandelles allumées toute la nuit.
On ne sait pas ce que Polidori va écrire, on ne sait pas ce que Lord Byron va écrire, on ne sait pas ce que Percy Shelley va écrire, mais on sait ce que Mary Shelley va écrire. Parce que Mary Shelley va, durant cette nuit-là, écrire les premières lignes d'un roman qui va devenir célèbre, qui s'appelle Frankenstein. Donc, le baron Frankenstein et sa créature naissent dans cette soirée de 1817 dans la villa d'Adjudati sur les bords du lac Léman en Suisse. Et on sait que quelques années après, ce John Polidori, donc qui fait partie de cette élite un peu avec des mœurs un peu scabreuses, étranges, mais également qui vont contester le pouvoir en place, contester des règles de l'Église, il va produire une pièce qui s'appelle The Vampire, qui sera jouée notamment au théâtre en Autriche. Et de vampire, bien sûr, c'est l'histoire d'un vampire, d'une sorte de noble bourgeois vampire. Et cette idée-là va être reprise en 1897 par Bram Stoker, qui lui va s'inspirer très librement d'un personnage, d'un prince de Valachie, qu'on appelle Vlad III, dit l'Empaleur. Donc, il va s'inspirer très librement de ce personnage, qui, dans les faits historiques, n'a rien à voir avec un vampire, mais qui était une espèce de despote. Et on nous dit, parce qu'il n'y a aucune certitude là-dessus, on nous dit que Bram Stoker aurait visité la Transylvanie, la Roumanie, aurait vu les châteaux de ce Vlad l'Empaleur. noirs et serait inspiré de la cruauté du personnage pour créer son comte Dracula. D'ailleurs, Vlad III, qui portait le nom aussi de Dracula, qui veut dire en roumain le fils du dragon, parce que son père s'appelait Vlad II dit Dracul, le dragon, et Vlad III dit Dracula, fils du dragon. Donc, Bram Stoker a bien aimé ce nom, cette prononciation de Dracula. Donc, il appelle son comte, son le prince.
Et Vlad, qui était un chef d'État, faut dire, sanguinaire, ce qu'il avait fait aux Turcs pour éviter une invasion.
Et ça, c'est amusant ce que tu racontes là, parce que moi-même, quand je me suis retrouvé en Transylvanie, je suis allé là-bas, et là, je rencontrais les gens, les villageois. Ils étaient un peu surpris de voir l'image que l'on avait du prince, en fait, hein, le prince Vlad III. En fait, nous, on en fait un despote et on en a fait un vampire. Alors que pour eux, c'est une cet individu.
Un
héros national. J'ai même ramené de mon voyage une espèce de poupée où les enfants jouent avec le prince Vlad. En fait, une poupée genre quasiment une Barbie, là, mais à l'image, au trait du prince. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que sa cruauté était très légendaire, mais il a fait un geste qui a sauvé un peu la Valachie, qui est une partie de la Roumanie maintenant. Il a sauvé la Valachie, la Transylvanie, de, disons, d'être conquis par les Turcs ottomans. Ce qui s'est produit, c'est qu'éventuellement, et là, bon, je m'excuse pour les historiens qui nous écoutent parce qu'on doit faire des raccourcis, mais à un moment donné, donc, les Turcs ottomans se préparent à envahir la Valachie. Vlad les connaît bien parce que lui et son frère Radu ont été détenus prisonniers par les Turcs ottomans pendant de longues années. Vlad est retourné en Valachie, il est devenu le prince de Valachie, il contrôle le pays. Les Turcs ottomans se préparent à envahir et là, ils se préparent à envahir comme sur le front Est. Alors le prince demande à ses conseillers militaires, que fait-on? Envoyons toutes nos troupes vers le front Est pour protéger l'invasion du pays par les Turcs ottomans. Et une fois qu'on a déplacé les troupes, les conseillers militaires vont voir le prince et ils lui disent, on a fait un mauvais choix parce qu'on apprend finalement, on était dupé. Les Turcs ottomans vont plutôt envahir par le front sud. Alors le prince Vlad lui dit, OK, nous allons déplacer les troupes vers le front sud. C'est impossible. Le temps de déplacer les troupes, les Turcs ottomans seront déjà là. Alors Vlad va prendre une décision qui va le faire passer à l'histoire. Il va demander à ses conseillers militaires, combien avons-nous de prisonniers turcs dans les prisons de Valachie? Et la réponse est 10 000, monseigneur. Alors, il demande à ce que les 10 000 prisonniers soient empalés sur le front sud. Et tu t'imagines, lorsque les Turcs ottomans franchissent la frontière, ils se retrouvent devant ce que l'histoire va appeler la forêt des empalés. Donc, 10 000 personnes se tordant au sommet de pieux de bois, certains encore vivants, moribonds, alors que les troupes ottomanes entrent par le front sud. Et l'image est tellement forte que tu l'as dit, les troupes vont virer, vont changer de trajectoire, vont retourner, vont quitter la frontière de la Valachie. Et Vlad aura ainsi sauvé le pays de cette invasion turque.
Un charmant personnage.
Un charmant personnage, mais on comprend que pour les gens qui habitent la région, il est devenu une sorte d'héros national. Il a sauvé le christianisme parce que, bien sûr, Valachie serait devenue musulmane.
On va parler maintenant avec René. Bonjour René, est-ce que vous croyez aux créatures surnaturelles?
Oui, sûrement, il m'est arrivé quelque chose. Hein. Il y a une dizaine d'années environ, j'avais une maison qui est un cottage sur la rue Simon, Montréal. Et puis là, j'avais un chat. Alors, je suis venu, puis le chat demandait à sortir. Alors, je suis arrivé à la porte d'entrée, j'ai ouvert la porte. Alors, le chat est sorti, mais il y a deux fantômes qui sont entrés. Deux hommes habillés en noir, qui se ressemblaient, c'était comme deux jumeaux. Je me suis même poussé pour le laisser passer. Puis les deux, puis il a fait un grand corridor. Alors les deux fantômes sont allés jusqu'au bout du corridor. Puis là, j'ai suivi. Puis j'étais excité un peu. Quand je suis arrivé là, oups, les deux fantômes ont disparu. Puis ça, c'est une histoire vraie. Je l'ai conté même à mon entête. Puis c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Hein? Mm-hmm. Deux grands hommes minces. Puis c'était comme deux jumeaux. Puis je me suis même reculé pour les laisser passer.
Ouais.
Ben oui, et puis ils sont allés, comme je vous dis, jusque dans le salon, parce que ça fait un grand corridor, comme je disais, au salon. Quand je suis arrivé là, les deux fantômes ont disparu.
Ouais, c'est sûr que quand on parle, Jeff, des créatures fantastiques, on a évoqué les vampires, plus tard on va parler des zombies, mais bien sûr, l'univers fantastique est rempli de créatures de tout acabit. Oui. Donc, bien sûr, les fantômes font partie, les apparitions font partie de cet univers-là. Que sont les fantômes? Est-ce que les fantômes existent? De quoi sont-ils faits? Sont-ils réellement des revenants? Sont-ils des projections de nous-mêmes? Pour certains, par exemple, les histoires de fantômes dans certains châteaux, on a toujours l'impression de revoir la même scène. Par exemple, des gens disent, on voit une dame habillée en blanc, par exemple, qui apparaît au bout du corridor. Elle va traverser le corridor et elle entre dans le mur et elle disparaît. Et tous les témoins rapportent à peu près la même apparition avec les mêmes gestes. C'est un peu comme si, quelque part, dans un invisible, on avait filmé une scène de l'histoire et que cette scène était représentée à satiété devant des témoins. Le fantôme apparaît, traverse le corridor, disparaît dans le mur, s'en prendre comme s'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, comme s'il n'était pas conscient des gens autour de lui, comme si c'était une projection de l'au-delà. Donc, ces créatures peuplent l'imaginaire.
Mais
quelle
aussi
est la part de
que...
réalité là-dedans?
Les croyances, justement, propagées depuis le début des temps concernant les fantômes ou les vampires, provoquent, font des biais cognitifs.
Oui.
Alors, les gens se font peut-être des accroires, et à ce moment-là, ça change les perceptions.
Oui, en fait, il y a d'ailleurs une étude qui a été menée par un scientifique britannique qui dirige un département de... En fait, c'est un psychologue qui s'intéresse à la parapsychologie. Il dirige un département de recherche en psychologie d'une université britannique. Et il a fait une recherche à un moment donné sur les gens et leur relation un peu avec les fantômes. Alors, il a amené des gens dans divers endroits, en fait, notamment au château à Hampton Court, qui est un château en banlieue de Londres, qui a été un des châteaux d'Henri VIII, que l'on dit très hanté. Il y avait un corridor en particulier que l'on disait très hanté. Et ensuite, à Édimbourg, il faut savoir que le sous-sol d'Édimbourg a plein de labyrinthes et que l'on dit également hanté. Et ce que Wiseman a découvert en faisant ses recherches, c'est que lorsqu'il dit aux gens, vous allez entrer dans une pièce, en fait, il faisait un peu un billet en partant.
Conditionnait les gens
en disant, vous allez entrer dans cette pièce et dans cette pièce, on dit que cette pièce est très hantée. Alors que c'était pas du tout vrai. Hein. Par exemple, je donne un exemple pour situer les auditeurs, on avait la chambre rose et la chambre bleue. La chambre bleue était très hantée, mais pas la chambre rose. Alors Wiseman changeait la version, il disait, c'est la chambre rose qui est très hantée. Et très rapidement, après quelques minutes, près de 50% des gens qui entraient dans cette pièce-là disaient, j'ai senti des impressions. Donc on voit, Wiseman a dit un jour, il dit, le meilleur critère pour qu'une maison soit hantée, c'est qu'elle ait la réputation d'être hantée.
Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Le biais cognitif
ouais.
qui change la perception. Merci à René d'avoir appelé. On va se retrouver dans à peu près 2 minutes. Et cette fois-là, avec Christian, les zombies.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et on est dans les créatures maléfiques aujourd'hui, les vampires et les zombies. Et malgré tout, ça revient quand même assez souvent, le sujet des apparitions, des fantômes. Éric, bonjour.
Hey, allô, comment ça va?
Ça va. Éric, vous, là, vous avez vécu une apparition, mais conjointement avec votre frère jumeau.
Ben, en fait, c'est drôle. Premièrement, c'est un privilège de vous parler, Christian.
Merci.
Je suis un grand fan de vos livres et tout ça. D'un très jeune âge, mon frère et moi avions des terreurs nocturnes qu'on pourrait appeler.
Oui.
Et puis au fil des années, quand on se parlait, écoute, je vais vous parler pour moi, puis après ça, l'histoire va évoluer. Je me faisais tourmenter la nuit par une... Puis je vous en parle, j'ai encore des frissons, là, c'est pas des jokes. Pendant plusieurs années, par la même entité qui venait nous voir, c'était représentée par une dame en noir, vieille. Je sais pas si vous êtes familier avec les films Insidious. Elle ressemble étrangement à celle, la tourmenteur du premier.
Okay.
Et la nuit, ça arrivait. Écoute, on était paralysés dans le lit. Elle montait sur le lit. Là, t'essayais de te refermer les yeux. Elle nous ouvrait les paupières. Regarde, c'était la folie un peu. Et puis... où on a vu, mon frère et moi, on était comme ça, puis où on a vu les similitudes, c'est quand mon frère et moi, on a commencé à se parler, c'était la même personne.
Okay.
C'était exactement la même personne. Puis, quand ça l'a arrêté, ce phénomène-là, c'est quand on a commencé à s'y opposer, à se battre un peu contre elle dans nos rêves, de refuser, mettons, ce qu'elle voulait qu'on fasse ou des choses comme ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis à peu près une dizaine d'années après, mon frère et moi, on avait peut-être 19 ans dans ce coin-là, on a vu un reportage, je me rappelle pas trop quel... mon frère m'appelle, il dit va à tel canal en anglais, tout ça. Il y a un gars qui décrivait le même style de terreur nocturne. Et il a décrit la même personne.
Mm-hmm.
Écoute, ça nous a flabbergasté, comme on dit.
Oui, oui, je comprends.
Ça a été, mettons, je parle de ça encore aujourd'hui, je pense que je serais capable de faire un excellent scénario de film d'horreur avec ça, parce que ça a été quelque chose, ça faisait vraiment drôle.
Ce qui est intéressant dans un récit comme celui-là, c'est qu'il faut regarder, il y a actuellement, dans le domaine des neurosciences, il y a une évolution qui s'est faite au cours des dernières années qui est tout à fait extraordinaire. Parce que maintenant, avant, dans les neurosciences, on devait attendre que le type soit mort pour prendre son cerveau pour regarder les connexions à l'intérieur. Maintenant, on peut suivre, en fait, le cerveau en pleine évolution, en plein travail. Et on s'intéresse beaucoup à des phénomènes qu'on appelle les parasomnies. Les parasomnies, ce sont des troubles du sommeil. Et on commence à en percevoir seulement, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Hein. On sait, par exemple, qu'un phénomène qu'on appelle la paralysie du sommeil. Et on sait donc que, bon, pour essayer de résumer, notre cerveau, bien sûr, lorsque l'on s'endort, notre cerveau débranche notre physique. Dans le fond, parce que s'il le faisait pas, vous rêvez que vous courez, vous allez vous lever dans votre lit et vous allez vous mettre à courir. Donc, ce système-là, donc cette paralysie que notre cerveau provoque de manière volontaire, bien sûr, c'est pour nous empêcher de bouger durant le sommeil.
Et ce qui revient souvent là-dedans, Christian, et je te l'ai déjà raconté, ça m'arrive parfois de dormir et là, tu as l'impression qu'il y a une présence, donc un ami ou quelqu'un qui arrive chez vous pour prendre un verre ou peu importe la raison. Dans mon cas, c'est pas une présence menaçante, mais là, tu veux te lever, tu peux vérifier.
Et tu peux pas bouger.
Et tu peux pas bouger. Voilà. Et ça dure un certain temps, je sais pas combien de temps, peut-être 2-3 minutes, et là, tu te bats, et là, tu reviens à toi.
Et dans le cas de ces parasomnies, dans le cas, par exemple, de la paralysie du sommeil, il faut bien comprendre que ça fonctionne, cette paralysie, n'est pas à 100%. Ce qui fait que lorsque l'on dort, parfois, on va avoir un geste brusque, on va bouger un coude, on va bouger une jambe, hein, parce que, bon, on a comme des soubresauts. Dans certains cas, ça fonctionne moins bien, ce qui entraîne des phénomènes comme, par exemple, le somnambulisme.
Oui.
Mais dans le cas de la paralysie du sommeil, ce qui semble revenir, c'est que souvent, elles peuvent être accompagnées de terreurs nocturnes, ou bien lorsque la personne se réveille, et ça, la science n'a pas encore trouvé l'explication. C'est le pourquoi. On sait qu'est-ce qui se produit. On sait que le cerveau n'envoie pas le bon signal pour réveiller le corps. Mais les gens ont souvent l'impression que l'expérience, elle est très négative et elle est souvent accompagnée d'une sensation de présence diabolique ou maléfique. Pourquoi? C'est très rare que des gens vivent une expérience comme celle-là en disant « J'avais l'impression que j'étais entouré par des anges ou des créatures là qui bienfaitrices. » C'est généralement des sensations excessivement négatives et souvent des espèces de créatures maléfiques. Il y a d'ailleurs une peinture qui date de la Renaissance, je ne me rappelle plus le peintre, mais qui est très célèbre, où on voit une femme qui dort avec une espèce de petit démon accroupi sur sa poitrine qui illustre bien, en fait, à ce moment-là, bien sûr, on ne connaissait pas les parasomnies, on ignorait ce qu'était la paralysie du sommeil, mais on voit bien par l'œil de l'artiste que le phénomène était déjà connu à cette époque. Donc, l'expérience que raconte monsieur est tout à fait fascinante. Des gens qui sont visités la nuit avec une espèce de terreur nocturne, des créatures semblables et similaires. Tout ça est un domaine que commencent à peine à explorer les neurosciences parce que le domaine du sommeil et du rêve est un domaine fascinant.
Éric est disparu, là. La ligne s'est coupée, mais Éric, mythe au pluriel à cogecomedia.com, est-ce que vous pensez que vous avez vécu une telle paralysie du sommeil? Mm-hmm. Est-ce que ça correspond un peu à votre cas? Ce serait intéressant de vous lire là-dessus.
Oui, absolument. Parlant de mort et de sommeil, si tu veux, je vais te parler un petit peu des zombies pour les quelques minutes qui viennent.
Oui, et on va le faire après la pause, Christian, parce que déjà, l'émission tire presque à sa fin. Dans un instant, une histoire très intéressante qui implique la science.
Oui, bien sûr.
On peut, et les zombies.
Avec le paranormal, on peut faire parfois de la bonne science et les zombies en sont la preuve.
On revient dans 3 minutes. Vous écoutez Mythes et complots.
Réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et complots. avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et dernier bloc de cette émission, Christian, avant de parler des zombies, on va revenir un peu sur la paralysie du sommeil.
Oui, parce que lorsqu'on a quitté pour la pause, tout ça devenait un peu complexe, là. Mais il faut comprendre que la mécanique de ce qui se passe, c'est ce que les scientifiques ont bien identifié, c'est que dans le cas de la paralysie du sommeil, comme je l'ai mentionné, notre corps est paralysé parce qu'on dort et notre cerveau envoie ce signal-là. Et soudain, à un moment donné, notre cerveau se réveille, mais il prend du temps à se réveiller. Donc, soudainement, on a la conscience d'être éveillé. Notre cerveau continue de générer des images oniriques, donc des rêves, ouais. Et il n'envoie pas le signal à notre corps de se réveiller. Donc, on a le sentiment d'être éveillé, on a une perception erronée de l'environnement autour de nous, donc cette présence est présence mystérieuse, et on voudrait bouger, mais le cerveau n'a pas encore envoyé le signal pour se réveiller. C'est un système excessivement complexe et on commence à peine à comprendre certaines de ces parasomnies, donc ces troubles du sommeil qui, sans aucun doute, sont à l'origine de toutes sortes de perceptions, comme les fantômes, les démons, les succubes, les incubes et tout ça. Donc, il faut regarder de ce côté de ces troubles très mystérieux du sommeil avant de faire intervenir des créatures de l'au-delà ou de mondes invisibles.
Et j'ai remarqué, en tout cas dans mon cas, lorsque la paralysie survient, une paralysie du sommeil, c'est lorsque je suis très fatigué. Donc, ça arrive très rarement. Et là, tu te concentres. Tu te dis, il faut que je me réveille. Parce que c'est pas nécessairement une présence maléfique que tu vas ressentir, mais c'est le malaise de, s'il y a quelqu'un,
oui.
J'ai pas mes moyens. Je peux pas bouger.
Et oui, c'est toujours un peu inquiétant de se retrouver dans une situation comme celle-là.
Les zombies maintenant, oui. Avec une histoire fascinante.
Oui, voilà, le temps file. Mais écoute, il faut en parler parce que les zombies, on le sait, c'est devenu très populaire. Qu'on pense à des séries comme The Walking Dead, qui est très, très populaire, oui. Et qui a presque tout un univers autour de Walking Dead. La nuit des morts vivants, un classique de 1968, ouais. De George Romero. Bon, les zombies font partie un peu maintenant de la culture populaire. Mais il faut regarder que dans l'histoire, il y a un événement scientifique très intéressant qui est associé à ces histoires de zombies. Et là, ben, je vais essayer de le résumer en quelques minutes. C'est très complexe. Voilà qu'on est en 1980. Un homme, on est en banlieue, on est tout près de Port-au-Prince, en Haïti. Là où, bien sûr, il y a toute cette culture du vaudou, des superstitions, des morts vivants qui sont véhiculé à travers ce mécanisme magico-religieux du vaudou. Oui. Et voilà qu'un homme s'approche d'une femme au marché public, lui tape sur l'épaule, elle se retourne, détaille l'homme, et il lui dit « Est-ce que tu ne me reconnais pas, Angelina? Je suis ton frère Clairvius. » Or, Angelina, on est en 1980, Angelina Narcisse regarde l'homme, c'est vrai que les traits lui rappellent son frère, mais comment est-ce possible? Son frère Clairvius est décédé en 1962 à l'hôpital Albert Schweitzer, un hôpital américain, avec des médecins américains, et l'a elle-même assisté à les obsèques de son frère. Elle était présente lorsqu'il a été inhumé. Alors, comment, 18 ans plus tard, cet homme-là peut-il sortir d'entre les morts? Alors, évidemment, cette histoire de Clairvius Narcisse sorti d'entre les morts, il lui explique « Je suis un zombie, je me suis réveillé le soir même au côté de ma tombe, il y avait des sorciers, on m'a amené sur une plantation de canne à sucre, j'ai travaillé là pendant quelques temps avec d'autres zombies, il y a eu une révolte chez les zombies, on a tué le propriétaire terrien, on s'est enfui dans les montagnes, et voilà que 18 ans plus tard, il réapparaît. » Pour faire une histoire courte, très rapidement, on va déterminer que Clairvius Narcisse est bel et bien celui qu'il prétend être. Il est cet homme qui a été inhumé 18 ans plus tôt. Mais comment est-ce possible? Alors, des scientifiques occidentaux, en particulier Nathan Klein à New York, et le docteur Hans Lehmann, ici à l'Université McGill, qui travaille notamment au département d'ethnopharmacologie, vont commencer à s'intéresser à ça. On suppose qu'il doit y avoir une drogue mystérieuse qui est utilisée par les sorciers vaudous pour créer cet état de mort apparente. Et on va charger un jeune ethnobotaniste qui est à l'Université de Harvard, un type qui s'appelle Wade Davis, un Canadien qui vient de la Colombie-Britannique. Et ce jeune Wade Davis a déjà été en Amérique du Sud où il a étudié des plantes, les effets pharmacologiques de certaines plantes. Il est un ethnobotaniste. On décide de l'envoyer en Haïti étudier ces histoires de zombies. Et ça, il le fait malgré l'opposition de certains de ses collègues
parce
qui lui disent...
Parce que c'est tabou.
C'est tabou, tu vas t'intéresser à des trucs de zombies, tu vas littéralement torpiller ta carrière. Finalement, ce jeune Wade Davis va se rendre en Haïti Haïti et va découvrir auprès de certains sorciers cette fameuse drogue à faire des zombies. Il y a de tout là-dedans, de la bave de crapaud, des ailes de chauve-souris broyées, etc. Mais toutes ces concoctions différentes les unes des autres contiennent un élément actif, la tétrodotoxine. Un poison, en fait, un champignon, un parasite qu'on retrouve dans les estomacs de ces fameux poissons globes, hein, les tétraodons. Et éventuellement, c'est cet élément actif qu'on retrouve dans les drogues. Et lorsqu'elle est administrée de manière très précise, donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, lorsqu'elle est administrée à certaines doses, elle peut créer des effets qui rapprochent, en fait, qui diminuent le métabolisme au point de faire croire que l'individu est mort. Et aujourd'hui, ce jeune Wade Davis est devenu célèbre. Il a un peu révolutionné le monde de la pharmacologie avec sa découverte. Il travaille aujourd'hui au National Geographic et il est la preuve vivante qu'avec, même si on parle ici de paranormal, si on sait bien aborder la question, on peut faire de la très bonne science. Bravo à ce Wade Davis.
Donc, les croyances superstitieuses sont ancrées dans certaines communautés, alimentent ces mythes de créatures surnaturelles. La science devrait pas avoir peur de s'y intéresser parce que le cas de Wade Davis est un bon exemple. Christian, en terminant une conférence le 18 novembre en Outaouais,
oui,
et à Québec le 25 novembre, christianpage.ca. Merci Christian.
On va parler des théories du complot à ces conférences.
Parfait, on se reparle la semaine prochaine, dimanche 14h. Salut!